Il a été décidé qu'on reparlerait dès les petites classes d'éducation civique, de courage, de refus de racisme et d'amour de la République. Il est dommage que l'école ne soit fréquentée que par les enfants. André Frossard, né le 14 janvier 1915 à Colombier-Châtelot, mort le 2 février 1995 à Versailles, est un journaliste essayiste et académicien français, officier de la Légion d'honneur, médaillé de la Résistance, Croix de guerre 1939-1945.
Chers auditeurs, bonjour. Nous sommes le 2 octobre 2021 en nombre très restreint. Bienvenue sur Radio Valois-Mulsien dans l'émission Pédago-Rando, animée par l'association Projet Action 60, en partenariat avec Agir ABCD et Énergie Jeune.
Tous ensemble pour la réussite, tous concernés par l'avenir de nos enfants, de nos ados.
Sylvie, peux-tu nous présenter le thème du mois ?
Alors, le thème, c'est la rentrée des classes. Alors, la rentrée des classes est effective depuis un mois maintenant. Nous allons, durant cette émission, faire un topo de celle-ci. Alors, des classes sont fermées, des cours en présentiel ou en distanciel, point d'interrogation. Parcoursup, date limite du 16 septembre, grève du 23 septembre pour les professeurs, la vaccination pour les plus de 11 ans. Bref, cette rentrée est très chargée.
Ces associations sont représentées par nos fidèles chroniqueurs. Bonjour les amis.
Bonjour, bonjour.
Notre thème du jour, la rentrée des classes. Et pour cela, nous recevons Johan, professeur d'histoire-géographie, au téléphone.
Alors, depuis la rentrée des classes, les médias ont annoncé un certain nombre de fermetures de classes, ce qui inquiète d'ores et déjà les parents qui vont être confrontés à régler la garde des enfants ou prendre des congés. Durant la période de confinement, beaucoup de psychologues, de pédiatres s'inquiétaient des effets des cours en distanciel. Et avant d'écouter l'interview de Marie-Estelle Dumont, qui est donc psychologue, je voudrais avoir un petit peu le point de vue sur l'efficacité ou non des cours en distanciel. Est-ce que toi, qui as des petits-enfants, qu'est-ce que tu en penses de ça, Gérard ?
Bien, nous, on a eu l'expérience, puisque ma petite fille, qui est au CP, pour la première année, au bout de 15 jours d'école, fermeture de la classe à cause du Covid. Donc, obligé de faire l'école pendant une semaine. Donc, nombreux problèmes parce que, est-ce qu'on fait bien ? On ne sait pas. Quelle est la durée sur laquelle on doit mettre l'enfant devant les problèmes pour faire ses exercices ? On ne sait pas trop. Par contre, quelque chose que j'ai trouvé formidable, c'est que ce qu'on a reçu par Internet pour faire les cours, c'était franchement...
Bien fait.
Bien fait, oui. Avec un numéro de téléphone de la maîtresse, si au cas où on avait un problème, elle était à disposition pour répondre.
Bah, donc, je crois que le problème qu'il y a, c'est que nous, on a appris, et on est des vieux, faut le dire quand même, on a appris d'une certaine manière, et il y a eu une certaine évolution des cours, et maintenant, on est un petit peu perdu. Comment leur expliquer, comment faire, pour ne pas trop les perturber aussi.
Tous les exercices étaient bien expliqués. Donc, on nous demandait bien de ne pas aller au-delà.
Au-delà. D'accord.
Donc, pour commencer, on avait le son A et le son I, on ne nous demandait pas d'aller plus loin.
D'accord.
Par contre, il fallait absolument qu'elle sache au bout de la semaine, parce qu'il y avait, comment on appelle ça, au bout d'une semaine, la semaine d'après, une évaluation.
Ah oui, c'était les évaluations.
Qu'elle puisse reconnaître toutes ses lettres, aussi bien minuscules qu'en majuscules. Donc, rabâchage des lettres.
Mais que des lettres A et I.
Non, tout l'alphabet là.
Ah,
mais par contre, il y avait le son A et le son I, on n'avait que ça à faire. Voilà. Donc, surtout ne pas aller plus loin.
D'accord. Et pour les autres matières, ça se passait comment ?
On n'avait que beaucoup de français et quelques notions en mathématiques.
En mathématiques.
Supérieur, inférieur, c'est tout.
Et lorsqu'elle a repris l'école, ça s'est bien passé ? Elle n'a pas eu de soucis, rien du tout ?
Non.
Tout avait été bien suivi ?
Non, tout a été bien saisi. Mais bon, bien sûr, dès le soir, il y a les parents qui arrivent. Alors, comment ça s'est passé ? Jusqu'où vous avez été ? Enfin, bref... On était plus interrogés, nous, que l'enfant, mais bon, ça s'est bien passé. Mais combien de temps peut la mettre devant un exercice ? Combien de temps, parce qu'ils se fatiguent vite, et puis ils ont... Bon, c'est les grands-parents, c'est plus pareil. Quelle autorité on doit avoir, jusqu'où on peut aller, on ne sait pas.
Ça serait très intéressant.
Ça peut être que complémentaire, ça ne peut pas être régulier. Il y a besoin de l'école et puis d'une astide derrière.
Moi, je voyais bien qu'à certains moments, quand je commençais, je me disais « Oh, bon, je vais chercher Claire, on va changer. » Parce que peut-être que...
Avec mamie, ça ira mieux.
Peut-être qu'avec mamie, ça va aller mieux. Et puis peut-être qu'elle va avoir une autre façon de parler.
D'expliquer.
Et puis on se disait « Bon, ça fait une heure, allez, on fait une petite pause. »
Une heure, c'est déjà pas mal. Hein.
Une petite pause. Et puis, mais on ne sait pas comment gérer le temps.
C'est l'organisation par rapport au temps qui est encadré.
Donc Gérard vient de nous dire un petit peu comment ça s'était passé donc avec sa petite fille. Toi, est-ce que tu as quelque chose à nous dire, Johan, sur le distanciel?
Oui, donc par rapport au distanciel, pas forcément, donc par rapport aux petites classes, puisque j'ai pas de vue, même si je connais des gens qui travaillent avec des petites classes, visiblement, ça s'est peut-être un peu mieux passé dans les petites classes que dans les classes au-dessus. Alors moi, au lycée, l'année dernière, j'étais pas tellement embêté, on avait la classe une semaine sur deux, mais du coup, on voyait quand même les élèves, ce qui permettait de leur mettre un peu la pression. Après, si je reprends le confinement, le tout premier, et le distanciel total, j'ai perdu énormément d'élèves au lycée. En ce qui concerne le collège et le lycée, je pense que c'est plus difficile de suivre les gamins, puisque ben, déjà, il y a la masse des cours, hein, qui fait que c'est compliqué de savoir ce qu'il y a à faire tel ou tel jour. Et puis, il y a la complexification aussi des cours qui ne permet pas à certains parents de suivre comme ils le devraient leur enfant. Et puis, certains parents aussi, une fois que les gamins sont arrivés au collège, ont tendance à moins les suivre que durant l'école primaire.
Oui,
donc, le distanciel qui a peut-être pas trop mal fonctionné en primaire, nous, on en constate encore les dégâts, notamment en seconde. Hein. On a vu les crues de seconde, le niveau a baissé. Le niveau a baissé en raison du distanciel. Donc, et c'est la porte ouverte aussi aux inégalités. Il y a de plus en plus d'inégalités liées à cela, puisque les parents ne peuvent pas aider comme ils le devraient, comme ils pourraient le faire leur enfant. Donc, et à côté de ça, il y a aussi la problématique des écrans, et puis il y a des distractions qu'on
tout
a à la maison, qui empêchent les enfants de se concentrer pleinement sur leur travail.
Alors c'est vrai que là, on voit le cas de la petite fille de Gérard. Elle a une seule maîtresse. Donc c'est vrai que c'est peut-être plus facile aussi pour les grands-parents ou les parents qui faisaient le distanciel de surveiller un petit peu les devoirs. Il y avait, qu'une seule personne à appeler. Voilà.
Au-delà de ça, il n'y a qu'une personne. Généralement, les instituteurs ont souvent donné leur numéro et c'est souvent facilement joignable. C'est moins le cas au lycée et au collège où c'était déjà... Entre enseignants, ça dépend des gens. Certains ont fait beaucoup, d'autres ont fait moins. Après, c'est pas forcément pour expliquer tel ou tel collègue, mais effectivement, ça dépend des gens. Certains ont fait plus que d'autres. Et tous les élèves n'étaient pas logés à la même enseigne déjà par rapport aux profs. Et ensuite, par rapport aux parents, donc ça a multiplié les inégalités.
D'accord. Donc là, on va écouter l'interview de Marie-Estelle Dupont, qui est une psychologue. Et donc, j'espère que tu vas pouvoir l'écouter, comme on a quelques petits problèmes. Voilà.
Marie-Estelle Dupont, bonjour.
Bonjour.
Le parti pris du jour, c'est vous, qu'on laisse nos enfants tranquilles. Il faut arrêter de les bassiner avec le Covid. Vous êtes vous-même psychologue, vous recevez non seulement des jeunes, mais aussi des parents. Qu'est-ce qu'ils vous disent ?
Alors, on est inquiet parce qu'il y a beaucoup d'effondrements depuis un an. Il y a beaucoup de troubles anxieux, beaucoup de TOC, évidemment, puisqu'on leur prescrit d'être totalement obsessionnels. Des phobies scolaires, des décrochages, des troubles du sommeil. Il y a eu, dès l'année dernière, une explosion des troubles alimentaires chez les adolescents. Et puis, on a de plus en plus d'idées suicidaires et de passages à l'acte suicidaire. Et mes collègues et moi, on essaye d'avoir les chiffres. On a du mal à les obtenir, mais sur le terrain, on note de plus en plus d'idées suicidaires et de passages à l'acte. Donc, de plus en plus d'hospitalisations. Déjà, l'année dernière, 600% d'hospitalisations en plus, notamment à Necker, en pédopsychiatrie. Donc, il y a une vraie vague pédopsychiatrique. Elle est indéniable. Il faut comprendre que quand les parents sont plongés dans la confusion, parce que du jour au lendemain, on ferme une classe, donc c'est le chaos. Soit l'enfant va se garder seul, soit le parent arrête de travailler, on fait perdre les repères de toute une famille, qu'un enfant ne peut pas apprendre à distance, c'est faux.
Il y a 3200, au moment où on se parle là, il y a 3200 classes en France qui sont fermées, c'est-à-dire qu'on est sur le même protocole que l'an dernier, un enfant malade et c'est toute la classe qui est fermée.
C'est délirant, on est dans un monde délirant, Apolline, c'est totalement disproportionné. Un enfant, il ne peut pas apprendre à distance parce que le cerveau ne fait pas passer les apprentissages en mémoire à long terme quand il est en déprivation sensorielle et en déprivation d'interaction.
C'est quoi une déprivation sensorielle, hein ? Pardon, mais là, ça devient chinois.
Quand vous êtes derrière un écran, vous êtes juste stimulé au niveau de la rétine par une lumière bleue. Il n'y a plus de modulation de la voix, vous ne voyez pas très bien, vous faites énormément d'efforts pour vous concentrer, donc votre cerveau est baigné de cortisol et d'hormones de stress et ça perturbe en fait le traitement de l'information qui ne passe pas en mémoire à long terme. Vous n'avez pas d'interaction, donc tout ce qui vous permet de mémoriser, le fait de parler avec les copains dans la cour, de poser des questions au prof, tout ce qu'il y a comme environnement émotionnel, or les centres cérébraux liés à la mémoire et aux émotions sont en grande partie les mêmes, tout ceci est perturbé. sans compter qu'ils sont désynchronisés au niveau de leur rythme et qu'ils dorment mal, donc ils apprennent encore moins, et sans compter qu'ils sont sédentaires. Pour moi, fermer une classe, c'est créer des problèmes de santé publique à long terme dont on ne mesure pas les conséquences. Ce sont des enfants qui perdent leurs compétences sociales. Ce sont des enfants agressifs, hyperactifs ou déprimés. Ce sont des enfants sédentaires, addicts aux écrans, obèses. C'est-à-dire qu'on est en train de leur prescrire tout ce pourquoi il y a quelques années, on faisait des campagnes de prévention de santé
publique.
C'est
vrai que quand on vous écoute, on se dit, mais au fond, attendez, j'étais en train de réfléchir, je me disais, on leur dit toute la journée qu'il faut arrêter les écrans. Et là, tout d'un coup, c'est l'école qui leur dit qu'il faut rester assis sur sa chaise toute la journée à regarder un écran.
C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une injonction paradoxale, et je trouve que depuis l'année dernière, de plus en plus, notre société se conduit collectivement, en tout cas moi je fais le parallèle dans les symptômes que j'observe, comme une famille maltraitante. C'est-à-dire que c'est les enfants qui portent les problèmes des parents. Et en fait, l'injonction paradoxale, c'est pour être un bon citoyen, tu dois te taire, tu ne dois pas montrer ton visage, tu ne dois pas sortir de la maison, tu ne dois pas faire de sport, tu ne dois pas parler avec tes copains. En gros, tu ne sors pas de chez papa et maman. Comment on va en faire des adultes ?
Voilà, donc là, on a vu les propos de Marie-Estelle Dupont, hein, c'était le 21 octobre. Alors, c'est vrai que quand on l'écoute, c'est plutôt alarmant sur le mal-être des enfants. Et moi, la question que je vous pose, Jackie, Gérard, est-ce que vous trouvez que c'est exagéré, ces propos, ou est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec
elle? Non, je crois qu'ils sont vrais. Il faut, il faut une présence physique. Et le fait aussi de. Bon, là, ils vont revenir dessus normalement. Mais le fait de fermer une classe complètement, c'est pas bon pour les élèves. Il vaut mieux avoir une présence physique, être devant le professeur, que d'être. Le distanciel, ça peut être que complémentaire.
Oui,
ça
mais de toute façon, il faut quand même un certain challenge entre les enfants. Savoir, tiens, ben moi je suis meilleur que lui, comment je peux faire pour m'améliorer, et puis voilà, c'est... Et puis le fait, d'avoir le voix de sa maîtresse, et puis chacun lui dire c'est bien, c'est pas bien. Nous, dans quelle mesure je peux dire à ma petite fille c'est bien, c'est pas bien, je sais pas.
Et puis parler avec les autres enfants, avoir un contact
bien
aussi.
Sûr.
Nous, on le voit avec la reprise un petit peu de nos activités, là. On l'a vu cette semaine quand on les a emmenés au jardin. Mais d'être ensemble, c'est la première des choses. Donc c'est sûr que d'être en classe, de se retrouver dans l'école, dans la classe, et de faire des activités ensemble, c'est quand même la priorité. C'est pas de rester tout seul avec les parents ou les grands-parents dans la maison. Bon, ça peut être que des choses qui viennent éventuellement compléter, mais ça peut pas être quelque chose de constant. C'est pas possible.
Et toi, Johan, est-ce que tu as rencontré des jeunes qui étaient dans un état d'anxiété après le distanciel ?
Oui, non, mais là, ce que dit la psychologue, évidemment, on constate dans l'éducation nationale, on ne peut que souscrire à ce qui a été dit. L'année dernière, j'étais professeur principal de terminale, j'avais des élèves en dépression, j'avais des élèves en phobie scolaire. On a effectivement une hausse de la phobie scolaire, une hausse de la dépression. D'un point de vue de l'addiction aussi aux écrans, on était uniquement sur écran, on leur demandait de passer 7 heures par jour sur écran, c'est totalement débile. Pour ne pas dire plus. On a des gamins qui sont aussi en décalage, hein, c'est-à-dire que les gamins, on sait très bien qu'ils se couchaient à 3-4 heures du matin, donc parfois le matin, ils n'étaient pas les cours en distanciel non plus. J'ai encore des gamins là, de 6e que j'ai vu cette année, enfin que j'ai cette année, pour leur demander à quelle heure ils se couchaient. Ils se couchent très tard pour certains, c'est aussi lié au dérèglement qu'il y a eu durant la période de confinement. Donc le numérique, c'est un outil intéressant, c'est un outil qui peut être, moi au lycée, c'était intéressant par certains endroits. L'année dernière, lorsqu'on a eu une moitié présence et distance, ça pouvait avoir un intérêt, mais on voyait aussi que les gamins chez eux ne travaillaient plus, ne suivaient plus, décrochaient pour la plupart. C'est compliqué de leur demander de se connecter à telle heure sur l'ordinateur et de passer leur journée sur l'ordinateur, puisque effectivement les injonctions sont aussi bien de limiter les écrans. On a oublié en fait l'humain dans cette période de confinement. Et le confinement, clairement, la jeunesse a payé un énorme prix. Les mots sont un peu forts, mais le confinement tel qu'il a été fait en mars 2020, c'est une insulte à la jeunesse. Et cette insulte à la jeunesse, on la paiera encore longtemps. On la paye dans le niveau intellectuel, on le paye dans le niveau de formation, et on le paye aussi avec des gamins qui effectivement sont en phobie scolaire, ont des envies suicidaires, mais vraiment en dépression. J'en ai vu quelques-uns l'année dernière, des bons élèves vraiment très très stressés et en dépression. Donc quand on voit ça, on se dit bon, on est en train de tout casser en confinant. Donc clairement, le distanciel, catastrophe. On a plus que jamais besoin d'enseignants en présence, et les élèves, il faut les voir, il faut qu'ils puissent voir leurs camarades, Et je suis aussi de la partie sur le masque. Alors le masque, bien sûr, c'est facile. Moi, je suis favorable au port du masque. Il y a mes élèves de le mettre. Effectivement, certains collègues disent effectivement le problème du masque, c'est qu'on ne voit plus les visages. Il y a un élément très marquant aussi, c'est le fait qu'un élève qui n'a pas son masque, on ne le reconnaît pas. Ça m'est déjà arrivé aussi. Et pour le du point de vue humain, on perd aussi quelque chose. Mais bon, ça c'est nécessaire pour l'instant.
Alors, c'est vrai que tu as raison pour le masque, mais quand on en parle aux professeurs, même de maternelle, hein, ils nous disent que les enfants s'adaptent. Et c'est vrai que les enfants s'adaptent énormément. Mais quelque part, ça les perturbe quand même.
En fait, les enfants s'adaptent beaucoup. C'est-à-dire que les petits, je pense que... En fait, les petits ne veulent pas le mettre. C'est les parents qui, généralement, génèrent ce stress chez les petits. Les petits s'adaptent très bien. Les plus grands, plus difficilement. Les lycéens... C'est pas qu'ils vont s'adapter, c'est qu'ils sont aussi dans la contestation, les collégiens, c'est quelque chose qui... Mais ils s'adaptent, effectivement, les classes, j'ai pas forcément beaucoup de problèmes cette année pour leur faire porter le masque, ils ont l'habitude.
Ils ont l'habitude.
Mieux vaut le masque que le distanciel, qui est une catastrophe éducative, une catastrophe humaine et une catastrophe vis-à-vis d'âge.
Bon, on espère que le gouvernement... Je pense que le gouvernement, quand même, a bougé un petit peu. Hein. Je pense que pour cette année, ils vont essayer de faire le moins possible de distanciel. Hein. Ils voient bien que ça perturbe l'apprentissage des enfants.
Le gouvernement bouge toujours à contre-temps. Et puis, au-delà des effets d'annonce du ministre, c'est que des effets d'annonce, parce que rien de concret n'est préparé. La rentrée, on nous demande même s'il la prépare. On en est à ce point-là.
C'est vrai que pour les gestes barrières, tout ce qui était sanitaire a été mis vraiment, quoi, vous avez été au courant vraiment au dernier moment.
Mais en fait, rien n'est fait, on est dans l'absolue improvisation, et donc c'est sur le terrain qu'on fait les choses, mais en hauteur, rien n'est pensé. Et alors pour le coup, nous, moi j'ai un élève, un cas concret, hein, j'ai un élève de seconde qui visiblement est en mise à distance pour 2 semaines, sans doute pour le Covid, hein. Moi j'ai eu dans la semaine un élève en seconde. Là, pendant 2 semaines, il est à l'isolement, donc ça doit être le Covid. Mais du coup, on ne ferme pas les classes, on met juste l'élève à l'isolement.
Mais ça doit être dur hein, d'être à l'isolement. Je pense que ça doit être compliqué pour l'élève.
Mais pour le gamin, ça va être compliqué. Alors c'est vrai que, bon, par rapport à la... Bon, il y aura aussi le sujet de la vaccination, mais effectivement, le gamin ne doit pas être vacciné, je pense. Ce qui explique, mais en tout cas, en termes de classe, ce qui est une bonne nouvelle... On devrait enfin pouvoir, pour la première fois depuis 3 ans, avoir une année scolaire complète et la plus normale possible. Après 2 années, finalement...
On espère. Il y a Gérard qui voulait intervenir.
Oui, je voulais te poser une question. As-tu vu l'émission du professeur qui a convoqué les parents? Tu sais, on a vu ça à la télé, pour que les parents puissent suivre leurs enfants et qui, depuis qu'il a fait ça, il a de très très bons résultats.
J'ai pas vu l'émission, non.
T'as pas vu, non?
Non. Ça me dit rien. De quoi il en est?
C'est un professeur qui a contacté tous les parents de ses élèves pour leur dire comment il allait faire ses cours, etc. Ce qu'il attendait des élèves et qu'il demandait absolument aux parents que s'il y avait un problème, ils viennent le voir. Et depuis qu'il a mis ça en place, il a des résultats très très bons.
Oui, il a jonglé sur le relationnel, ce qui est très bon.
C'était en quel niveau?
Je sais pas, je crois que c'est des élèves de terminale qu'il avait. Hein.
D'accord.
Ouais.
Parce que le gros souci qu'on a, alors tout dépend où, le gros souci qu'on peut avoir, c'est que on a parfois du mal à avoir les parents, notamment je pense à des classes de collège, très souvent. Au lycée, c'est différent. Au lycée, c'est plus avec les gamins qu'on essaie de travailler, notamment en terminale. J'avais 2 terminales la semaine dernière, j'en avais plus qu'une, mais du coup, on essaie de travailler sur la responsabilisation des gamins. Et après, les parents, tout dépend, il y en a qui sont très présents, on les voit régulièrement, hein, des enfants régulièrement, et il y en a qu'on ne entend jamais, malheureusement.
Alors, nous, on va partir sur autre chose. Hein. Concernant les directeurs d'école primaire REP et REP+, le président de la République a annoncé à Marseille qu'il pourrait choisir leur équipe pédagogique. Alors... Suite aux résultats, c'est vrai, hein, quand on voit ce qui se passe au niveau, quand on en parle aux professeurs, etc., ce principe pourrait être donc généralisé. Moi, j'aimerais savoir, en tant que professeur, qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'automatiquement, on va commencer peut-être par les directeurs d'école primaire, mais ça arrivera sans doute en maternelle et au collège. Le fait que ce soit le directeur de l'école, ou le principal, qui choisisse son équipe éducative.
Mais c'est la porte ouverte. Ça, c'est la porte ouverte aux inégalités et au copinage. Le gros souci, c'est qu'on a un système qui est loin d'être parfait, un système de points. Là, moi, j'ai du mal à avoir un poste en lycée là où je veux être. Je me retrouve dernière avec toutes les contraintes que ça peut comporter. Mais au-delà de ça, l'intérêt du système, c'est que c'est le même pour tout le monde et qu'il est très difficile, voire impossible, de le gruger. À terme, si jamais ça devient des recrutements locaux, le proviseur fait ce qu'il veut, il prend les copains, etc. Et ça va être au copinage que ça va jouer.
Donc en fin de compte, si je comprends bien, moi, il y a une chose que je me demandais. Les directeurs d'école ou principales, c'est eux qui vont porter la responsabilité, c'est-à-dire avoir une responsabilité plus importante sur la qualité de l'enseignement. Alors que ça, avant, ça appartenait, c'était le rôle des responsables des académies et du rectorat, non ?
Surtout que le proviseur, bien sûr, c'est les chefs supérieurs hiérarchiques, hein, mais au-delà de ça, ils n'ont pas interféré avec notre pédagogie, notre personnel. Ce sont pas des experts de toutes les matières. Ils maîtrisent une matière, certains n'ont même pas été profs. Beaucoup ont été profs, mais d'une matière, ils n'ont pas interféré avec les enseignements. Et le problème, c'est qu'on est en voie de libéralisation de ce côté-là. Et on prend exemple sur le privé, en fait.
Hein, oui, c'est
privé,
ça.
Quand on pense qu'au privé, les profs sont meilleurs, non, les profs ne sont pas meilleurs. Simplement, ça marche par copinage. Si on est copain avec le proviseur, on va être recruté dans le collège ou dans le lycée du proviseur. Donc, il n'y a pas forcément de meilleure qualité des cours du privé. Je le vois encore avec les lycéens du privé qui sont loin d'être meilleurs que des lycéens dans un collège à l'école.
Oui, la chose que le président a fait déjà à Marseille la dernière fois, puisque c'est une idée de lui là, qui risque de mettre en place, c'est que pour l'instant, c'était surtout au niveau des REP, REP+, et des primaires et aussi collèges. Parce que bon, soi-disant que pour lui, il y aurait peut-être une fidélité au niveau prof et puis de liens et de compétences qui seraient peut-être un peu plus accrues. Mais là, moi, je vois les différentes interviews, enfin, choses que j'ai trouvées. Bon, il y en a énormément. La majorité disent que c'est quand même un leurre et que le problème est bien plus profond. Ce n'est pas parce que les directeurs vont choisir leur personnel que ça va susciter des vocations. Et notamment, il y a aussi le système, la chose de que les, comme tu dis, les enseignants sont mis sur un barème de points. Donc, en fin de compte, de points et d'ancienneté. Et bon, même s'il y a un barème de points et d'ancienneté, en fin de compte, après, il y aura peut-être, malheureusement, une source de clientélisme. Donc ça, c'est pas forcément une bonne chose. Et même si on veut fidéliser ces enseignants qui sont surtout, c'est surtout pour des zones REP et REP+, soi-disant, c'est pas parce qu'on va le directeur ou le proviseur va avoir une autonomie
pour choisir.
Voilà, c'est surtout une comme j'ai vu c'est surtout malheureusement aussi une vocation. Donc si des gens, c'est, on ne peut pas non plus mettre du jour au lendemain n'importe qui n'importe comment. Et là, ce qu'on voit aussi malheureusement dans ces REP plus et REP, c'est souvent des gens qui arrivent en première mutation, des gens qui arrivent qui sont jeunes. Donc si c'est peut-être ce système-là déjà à changer, avoir des gens qui aient vraiment des compétences et pas forcément mettre que des gens où déjà la première mutation.
Enfin, moi qui vais quand même dans les collèges, ça fait quand même 10 ans que je tourne dans les collèges, je vois quand même qu'il y a un turnover de directeurs assez important. Oui, donc si le directeur commence tous les 2 ans à changer et qu'il prend son staff, ça va revenir à une équipe de football, quoi. Dans une école, quasiment 30 ou 40% des professeurs vont partir pour suivre le directeur ailleurs. Ça va devenir ridicule, quoi.
Ça va être le même style.
Mais ça devient ridicule, quoi.
Non, mais c'est une notion.
Donc on espère que le gouvernement nous écoute. Hein. On vient de dire que c'était ridicule. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Johan ?
Non, mais le souci des REP+, etc. Alors, c'est bien beau d'essayer de fidéliser. Alors, il y a des gens qui aiment beaucoup enseigner en REP+. Certains, effectivement, se sentent plus utiles à enseigner en REP+, préfèrent enseigner en REP+. Mais c'est pas une question ni de salaire, ni de moyens pour enseigner en REP+. Puis aujourd'hui, il y a de plus en plus de collèges qui basculent en REP+, alors qu'ils ont des problématiques de la REP+. C'est-à-dire que ce sont des REP+, qui n'en ont pas le nom, qui n'en ont pas les moyens. Donc c'est pire, on se trouve avec des classes de 30, et c'est extrêmement compliqué à gérer. Quand on a les présidentielles arrivent, on a les effets d'annonce sur les salaires des enseignants, mais au-delà du salaire, faut aussi mettre des moyens dans l'enseignement. Et ces moyens dans l'enseignement ne sont pas mis. Concrètement, moi, même avec un salaire plus élevé en REP+, un enseignant en REP+, je préfère nettement ne pas être en REP+. Je préfère les éviter. Je préfère aller dans un lycée, effectivement, où je me sens plus à l'aise. Parce que les niveaux autorité, niveaux maintien de l'ordre dans la classe, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, puisque je suis enseignant, pas pour maintenir l'ordre, mais pour transmettre des connaissances. On est quand même matraqué même à l'ESP, sur des notions de maintien de l'ordre. On nous dit, pendant 2 semaines, vous ne faites pas cours, vous tenez votre classe. Normalement, si j'avais voulu travailler dans les forces de l'ordre, ben, j'aurais fait un autre métier.
Et ça ne te plaisait pas, a priori. On va parler... Vas-y, continue.
Non, mais je n'aime pas ça. C'est-à-dire qu'on va dire très vite à un enseignant qui est un mauvais enseignant parce qu'il ne tient pas sa classe. Mm. Ça, c'est quelque chose qu'on entend. Il y a des gens qu'on renouvelle parce qu'ils ne tiennent pas leur classe. Mais qu'est-ce que ça veut dire tenir la classe pour les gamins 30, 35 avec des problématiques diverses et variées, des pauvres gamins. Là, j'en ai encore. Je ne parlerai plus actuellement au collège. J'ai quelques pauvres gamins. Ces gamins-là pourraient les aider et ne pas les mettre dans les classes à 30. Le problème, c'est que le gamin est dans une classe à 30. Donc, du coup, le gamin, il est impossible, quasiment impossible de l'aider. Forcément, le gamin remue et ça entraîne la classe avec lui. Enfin, c'est des problématiques, ils le savent très bien, sauf que personne ne veut voir le problème.
Alors, je reviens là-dessus, sur l'effectif, parce que quand ils ont mis en place, au niveau des écoles REP+, les CP, on a commencé par les CP, donc en dédoublement de classe, et après on a fait les CE1. Au départ, on voit, il y a quelques années, ils avaient 12 élèves. Et maintenant, ils en ont 16. Donc, au fur et à mesure, on voit que ça augmente. Donc, à un moment donné, ils vont se retrouver avec 20 élèves et on ne pourra plus appeler ça du dédoublement de classe. Voilà.
Puisqu'il aurait fallu faire, si on voulait vraiment faire quelque chose de correct, ce qu'il aurait fallu faire, c'est dédoubler carrément, complètement, du CP au CM2, faire vraiment une école, enfin une primaire qui soit vraiment, puisque c'est dans les endroits REP et REP+, surtout, qu'il y a plus de problématiques, c'est faire un dédoublement complet du début jusqu'à la fin. Et là, il y aurait peut-être eu... Parce que ça, moi, je trouve que c'est un peu aberrant. On fait un dédoublement CP-CE1. Mais l'élève qui a vraiment des gros problèmes de suivi, il va arriver à se remettre un petit peu à niveau en CP-CE1 avec le dédoublement, mais arriver après CE2, CM1, CM2, il va se retrouver avec des classes à 25, 28, ou même là, j'ai vu, là, celles qu'on a eues cette semaine, ils sont à 32. 32 en CE2. CE1, CE2. Donc, mais c'est pas possible.
C'est-à-dire, quand on voit, quand ils avaient donc 13 et 12 ou 13 élèves au départ, donc arrivés en CE2, ils arrivaient à une classe de 24, 26. Actuellement, ils sont 16. Donc, on va petit à petit, les CE2, là aussi, vont augmenter.
Bah le but du dédoublement, on va se reperdre. On va revenir avec des élèves qui, même avec ce dédoublement, soi-disant ce dédoublement, vont reperdre le peu qu'ils avaient acquis, et ils vont revenir avec des niveaux qu'ils ne vont plus avoir.
Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les gouvernements successifs marchent par effet d'annonce. Le dédoublement en CP, c'est un effet d'annonce, simplement pour faire beau sur le papier. Dans les faits, c'est des choses qui sont extrêmement illusoires, sachant qu'effectivement, ils reviennent à des nombres très importants dans la foulée. Et puis, tout ce qui est mesures, justement, pour aider les gamins dans les zones difficiles, dans les REP, il y a quand même beaucoup derrière d'effets d'annonce et beaucoup de communication, bien plus que de vraie volonté.
De mise en place, voilà.
Le gros problème de l'éducation nationale, et là je le vois encore aujourd'hui dans mon cas personnel et puis je le vois tous les jours, c'est le mur de l'argent qui est de toute façon plus fort que l'éducation. Donc l'argent étant manquant, et comme on ne veut surtout pas mettre d'argent là où c'est nécessaire, on met à des endroits où c'est peut-être moins, on arrive à une éducation qui ne fonctionne pas. Et au-delà des réformettes, soit celle du lycée, celle du collège, ce qu'il faut faire, c'est une réforme de la maternelle.
Une réforme de fond.
On en a discuté avec des collègues pas plus tard qu'hier. C'est une réforme de fond qu'il faut. Ça sert à rien de faire des réformettes. Changer à la marge ne sert à rien. Donc les réformes Ballot-Belkacem et Blanquer sont des réformes qui ne servent à rien au collège et au lycée.
Là, mauvaise réforme. Je voudrais un petit peu avancer sur les évaluations et les résultats. Alors, les évaluations ont eu lieu, on n'a pas encore tout à fait les résultats. On a quelques estimations. On sait par exemple que dans certaines primaires, ça a baissé hein, quand même. Bon, on met ça sur le dos des deux années précédentes. Est-ce que toi, tu as un petit peu des résultats au niveau peut-être du collège ou du lycée ? Alors, tu nous parlais tout à l'heure de la seconde. Effectivement, en nous disant qu'il y avait des résultats pas très bons.
Oui, moi, j'évoquais, en fait, en seconde, on voit qu'il y a des résultats, effectivement, on voit que nos secondes sont de moins en moins performées, de moins en moins bons. Ce n'est pas la faute des collègues de collège. Malheureusement, il y a eu le confinement, effectivement, qui a des dégâts colossaux. Là, moi, je retrouve cette seconde, je n'en avais pas eu l'année dernière, donc je n'avais pas vu mes collègues m'en parler en disant que le coup de seconde était très difficile, ils avaient beaucoup de mal. En fait, le confinement a fait très mal. Là, je vois en sixième, la classe que j'ai, ça a l'air d'aller à peu près en termes de lecture. On fait les tests de lecture, les tests de fluence, les collègues de français, les tests de fluidité de lecture. Ça a l'air d'aller. Moi, quand je les interroge à l'oral, ça a l'air d'aller pour une bonne partie d'entre eux. Mais après, effectivement, bon, ces tests montrent quand même, en général, au collège ou au lycée, que les deux années de confinement ont laissé des traces. Et des traces qui sont évidemment négatives.
D'accord. On a pu voir effectivement qu'en primaire, ce qu'ils avaient fait un petit peu l'année dernière, c'est qu'ils avaient fait des révisions pour remettre les élèves à niveau, en fin de compte. Ouais.
Mais là, on a eu quelques... Puisqu'on a été hier dans les deux écoles primaires où on va d'habitude, et on a eu quelques remarques. On a eu une discussion avec les deux, justement, deux directrices, et on a eu quelques remarques. On leur a posé la question, et pour l'instant, c'est pas très positif, hein, de ce côté-là, la rentrée sur les... Il y a toujours des gros problèmes d'écart de... Bon, eux, ils s'en rêvent plus, hein. Mais des gros écarts au niveau du niveau, hein. C'est compliqué.
Alors, on va parler de choses qui fâchent. PISA. Alors, PISA, on se pose la question, pourquoi la France arrive avant-dernière en maths ? En sciences, ce n'est pas mieux. Et donc, je crois que j'ai fait travailler Jackie là-dessus. Je lui ai demandé, cherche-moi des statistiques. Et donc, PISA, c'est tous les 4 ans.
PISA, c'est tous les 3 ans.
3 ans.
Donc, le dernier était en 2019. Donc le prochain, il sera cette année, en 2022. Le prochain, c'est en 2022. Hein. Donc PISA, c'est un organisme de statistique, mais qui est piloté par l'OCDE. Donc c'est ça, c'est l'OCDE qui demande ça régulièrement. Et c'est 600 000... Alors c'est sur un échantillon assez large, enfin dans le monde, hein, puisque c'est dans le monde sur des... C'est plus de 600 000 élèves donc à tous les stades. Hein. Qui sont, alors en France, c'est sur un ordre d'idée de 6000 élèves. Donc, de l'anonymat, hein, c'est des élèves qui sont pris comme ça et auxquels on prend des statistiques. La France, alors sur les derniers classements PISA, la France obtient 493 points dans le domaine de la compréhension de l'écrit, légèrement au-dessus. Très très légèrement, puisque la moyenne elle est de 487 points au niveau de la moyenne de l'OCDE.
Oui, on a quelques points au-dessus.
Oui, oui. Donc on est, soi-disant ce qu'ils disent, on est à peu près dans la moyenne, puisque la Belgique était un peu avec nous, et l'Allemagne, elle, était autour de 500 points. Et on retrouve quand même tous les pays asiatiques qui sont largement dans les premières places.
C'est bizarre, c'est toujours eux les premiers.
Mais après, bon, ils ont un système qui est quand même un peu différent, très très différent d'une autre, et même très différent du système européen. Mais par contre, on a quand même les pays nordiques qui sont quand même dans le haut de la moyenne.
Il suffit de regarder la différence d'éducation.
Oui, bien sûr.
En France, il y a un gros problème, c'est qu'on n'apprend pas aux jeunes à travailler. Moi, mon petit-fils qui est en sixième cette année, si on n'est pas derrière pour lui dire « t'as vu, t'as des devoirs à faire pour vendredi, on est mercredi, commence, profites-en ». Avance-toi. Non, on n'apprend pas aux jeunes à travailler. Et quand je vais dans les collèges, je vois bien.
C'est marrant ce que tu dis, parce que tu dis oui, on n'apprend pas les jeunes à travailler, alors que en Chine, par exemple, ou même au Japon, justement, on les force énormément à travailler. Et le fait que les enfants, ils ont déjà leur scolarité, les parents payent en plus des cours privés, et bien les gamins, il y en a beaucoup aussi qui font des burn-out et qui vont jusqu'au suicide. Alors moi je veux bien, mais elle est où la limite, quoi ? Donc ça ne m'étonne pas que les Chinois arrivent premiers pratiquement partout, parce qu'on les force, réellement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein.
Non, mais ce qu'il faudrait, c'est chez les élèves de 6e, 5e, c'est, je veux dire, quelque chose d'assez compliqué, mais c'est les forcer à aimer apprendre. qu'on n'aime pas à les forcer, mais essayer de leur inculquer le fait, c'est d'aimer apprendre.
Voilà. Mais voilà. Leur dire pourquoi ils apprennent. Souvent, on le dit.
Il
y a
peut-être aussi les systèmes qui sont complètement différents. Moi, je vois dans les systèmes, alors, il y a les systèmes nordiques, asiatiques, c'est encore autre chose. Mais les systèmes nordiques et nous, les systèmes de l'Est aussi, qui sont un peu semblables, moi, je le vois avec, puisque nous, on va souvent en Russie, les systèmes de l'Est ne sont pas du tout, ils sont différents d'une autre. C'est-à-dire que les matinées, le matin, elles sont destinées aux matières prioritaires. Donc, tout ce qui est lecture, enfin, tous les... Et l'après-midi, elles sont essentiellement destinées aux matières de découverte. Donc, tout ce qui est culturel, découverte et autres. Et là, ça permet quand même d'avoir que les élèves aient une autre vision et les profs ont une autre vision et une autre façon de travailler. On sait très bien que le matin, c'est beaucoup mieux pour travailler. Il y a beaucoup plus d'attention. On travaille beaucoup mieux, on arrive beaucoup mieux à se recentrer sur ces matières-là le matin plutôt qu'à arriver en début d'après-midi pour avoir des cours, soit en début d'après-midi, soit des cours en fin d'après-midi sur des matières premières.
Et donc, sinon, au niveau de la discipline, parce qu'on en a parlé hier avec Jackie, oui. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'il en est ?
Alors, sur les disciplines, c'est aussi un problème, mais c'est dans les statistiques générales, justement, de PISA, qui... la France est un gros problème au niveau de la discipline. La France est avec l'Argentine et le Brésil. L'un des trois pays où les élèves font part des plus grandes préoccupations liées au problème de discipline de la classe. Un élève français sur deux, contre un sur trois en moyenne dans l'OCDE, déclare qu'il y a du bruit dans la classe, de la plupart, voire dans tous les cours. Et pour plus de deux élèves sur cinq, le temps d'apprentissage est réduit en raison du bruit. Donc ça, c'est vraiment, comme tu disais, Yon, c'est vraiment une problématique. Donc les élèves eux-mêmes
s'en aperçoivent.
En font part.
Voilà.
Moi, quand j'ai posé la question à un sixième, je lui ai dit « C'est bien, vous faites que bavarder, mais vous avez appris ça où ?» Il m'a dit « Mais moi, j'ai appris ça à la maternelle. »
Mais c'est vrai, moi, j'avais entendu qu'un prof parlait une fois comme ça de discipline. Alors, les cours en collège sont sur 50 minutes. Et ce prof disait « Eh bien, c'est quand même lamentable, mais je perds 10 minutes par cours pour justement la discipline. » Est-ce que tu peux nous dire quelque chose là-dessus ? Et puis, je redonnerai la parole après à Jackie.
Yoann. Moi, du coup,
Oui, excuse-moi.
Oui, du coup, effectivement, les problèmes de discipline, c'est... Alors là, je suis même pas étonné de voir la France assez mal classée. après, je pense qu'il y a un souci, qui provient également, hélas, à l'origine des parents. Je pense que c'est un des premiers problèmes qui se fait. Il y a des parents qui ont démissionné complètement et qui envoient leur gamin, je l'ai vu, ils savent même pas où est le gamin la journée, sauf qu'il est vaguement dans un endroit qu'on appelle le collège. Mais de là à savoir ce qu'on y fait, certains sont vraiment très très éloignés des problématiques, c'est-à-dire qu'ils n'en ont absolument rien à faire. Et puis effectivement, les gamins ont remis beaucoup. Là, moi je vois, moi je parle de lycée très nettement au collège, c'est qu'au lycée je fais cours. Au lycée je fais mon cours, sur une heure de cours, je dois faire 50 minutes de histoire, de matière, pas de géographie. Au collège, sur une heure de cours, 55 minutes de cours, j'ai au moins un quart d'heure qui va être mangé par de discipline, machin, tais-toi, machin, lève la main pour prendre la parole, machin, arrête de basculer sur ta chaise, machin, arrête de parler avec le voisin, etc., etc. Et donc, ces problèmes de discipline, aujourd'hui, on en a trouvé, en rectorat, ils ont trouvé une solution, c'est les profs qui sont incriminés, c'est le prof qui ne tient pas sa classe. Le mauvais prof, le bon prof, c'est celui qui tient sa classe, quitte à terroriser ses élèves, le dictateur, si les élèves ne montrent pas, très bien ne rien leur apprendre, c'est un bon prof, puisqu'il n'y a pas de bruit. Et on est notamment à la politique du pas de vague, pas que ça fasse de bruit, pas que ça gêne à l'extérieur, hein. Si ça gêne pas, s'ils apprennent rien, mais qu'il y a le silence, c'est très bien pour l'administration. C'est l'idée. En même temps, quand on met des classes à 30 en collège, ou à 35-36 au lycée...
Oui, c'est infernal.
35-36 au lycée, ça a tendance à gérer, parce que les gamins savent où ils sont, savent où ils mettent les pieds. Moi, je l'ai dit, hein, là, je suis collège et lycée cette année, lycée, je pars du principe que je fais cours pour les meilleurs, à charge pour les moins bons de recoller. Bien sûr, pour les aider, mais l'idée, c'est vraiment d'avancer et de les emmener le plus loin possible. Au collège, je fais cours pour les moins bons, en me disant que les meilleurs, déjà, de toute façon, j'irai pas plus loin parce que déjà que je ramène le bas de la classe avec le haut de la classe. Du coup, les moins bons, qui généralement sont assez dissipés, s'agitent quand même, et les meilleurs, qui du coup s'ennuient, commencent à s'agiter. On se retrouve dans des problèmes assez insolubles. la disparité d'écart de niveau au collège entre deux élèves, ça peut être abyssal. C'est vraiment abyssal. Il y a un monde d'écart. Et bon, c'est des choses sur lesquelles, voilà, c'est des problématiques aussi de fond, hein, mais notamment la question du collège unique qui a été mis en place en 1979, le collège unique dans les années 80, je pense que c'est effectivement, faudrait revenir clairement sur le collège unique. Il y a un problème, il y a un vrai problème. Et le fait aussi de vouloir, aujourd'hui on le voit avec les diplômes, quand on parle de PISA, etc. PISA, aujourd'hui, on parlait des maths tout à l'heure, les maths ne sont plus obligatoires à partir de la seconde.
Oui.
On est en train de perdre énormément. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas assez de profs de maths. Hein. Les profs de maths font autre chose.
Il n'y en a plus.
En maths font autre chose. Donc, pour des raisons économiques, on a enlevé les maths. Et le niveau en mathématiques est en train de fondre terriblement. Et les élèves ne font plus de mathématiques.
Oui,
et
alors, donc, Johan, je te coupe deux secondes parce qu'il faut dire que les mathématiques deviennent une option. Ouais. Option, mais tout ce qui est scientifique aussi, non ?
Non. L'enseignement scientifique est maintenu en seconde, il est maintenu aussi en première, c'est en terminale. Disons, l'enseignement scientifique avec la physique et la SVT ensemble, mais les mathématiques qui ont quand même un intérêt pour la logique, moi je le vois même en histoire, le fait d'aller d'un point A à un point B sans passer par des circonvolutions trop importantes, le fait d'aller directement du point A au point B, bah, c'est compliqué pour certains élèves. Mais le raisonnement logique, certains ne l'ont plus, et ça se sent dans d'autres matières. Mm-hmm. Et là où ça va être préoccupant, c'est qu'on a de nombreux enseignants qui sont plus déficitaires. Donc beaucoup de futurs enseignants de primaire qui vont abandonner les mathématiques relativement tôt, et ben ces gens n'auront pas de formation mathématique lorsqu'ils vont enseigner dès la primaire. Ça reste quand même un problème. La formation mathématique est de moins en moins bonne, de moins en moins importante, et le fait que ce soit une option, c'est également un problème. Et puis, encore une fois, par rapport à PISA, on arrive aussi sur les diplômes. Aujourd'hui, moi je rigole un peu quand je vois les chiffres en début d'année, en rentrée au brevet, 95% de réussite. Bon, le brevet, quand on voit comment est le brevet aujourd'hui.
Oui, par rapport, voilà.
Le brevet, c'est rien. C'est très dur que je le dise, mais le brevet, c'est vide, c'est creux. C'est très, très creux. Le bac, c'est moins creux. Encore que le bac, maintenant, n'est plus national avec la réforme de Blanquer.
Mm-hmm, c'est un bac, tout à fait.
C'est un bac à la carte. Et on a un bac aussi où il y a 95% de réussite chez nous. En même temps, c'est simple. Hein, on est à la fois jugé parti. Moi, je dis à mes élèves, je suis pas là pour les tuer, donc forcément, on remonte les moyennes avec des moyennes un peu arrachées à coller à droite à gauche. On a aussi le rectorat qui remonte, qui réajuste les moyennes selon les lycées, donc on a un bac à plus d'un vitesse. Donc on n'a plus de brevets, plus de bac, en fait, nos diplômes ne valent plus rien. C'est aussi un problème qui est là. À force de vouloir faire en sorte que tout le monde, c'est bien, que tout le monde arrive avec un bac, par exemple, le bac, en fait, ne vaut plus rien. Aujourd'hui, à 90%, 95%, le bac ne vaut plus rien. On a un simple bac, donc d'ailleurs on s'était massé.
Mais est-ce qu'il ne serait pas possible, puisque ça arrive de plus en plus, hein, et c'est aussi dans les tuyaux, hein, est-ce qu'il la notion de contrôle continu qui va arriver de plus en plus ? Parce que là, on voit dans le bac, là, il y a...
Mais c'est pratiquement
moi,
ça.
Moi, j'ai écouté justement une...
C'est une catastrophe.
Oui, mais j'ai écouté une interview là-dessus.
Justement, ce contrôle continu a pour effet, en fait, d'amplifier les inégalités. Alors, de toute façon... le prof est jugé parti, donc moi je mets les notes à mes élèves. Clairement, quand je vois que c'est bas, eh ben, j'essaie de remonter par tous les moyens. Je vais pas laisser mes gamins à deux de moyenne. Hein.
Non, mais disons que en plus, ça stresse énormément les jeunes. Donc, effectivement, on pourrait peut-être changer notre façon de faire. Je vois en Suède, par exemple, il n'y a pas le bac. Ils ont simplement un mot comme quoi ils ont été jusqu'au bac. C'est tout, il n'y a pas de diplôme. Il va falloir qu'on stoppe un petit moment parce qu'on va voir un intermède musical.
Bonjour, tu dis merci, t'es toujours à l'heure au bureau. Le bien aimable, le bien poli, on te prend jamais en défaut. T'es pas du genre qui s'énerve, qui aime taper du poing sur la table. Plutôt celui sur la réserve, qui tempère, qui calme. Combien de temps encore faudra-t-il agir comme ils aiment? Combien de bruit encore avant la couffaine?
Un jour tu diras stop, t'inverseras les règles, tu claqueras cette porte pour en ouvrir une nouvelle. Un jour tu diras stop, t'inverseras les règles,
et puis fragile. Faudrait être comme elle, comme il, être belle, être in. Faudrait sourire même au pire, faudrait être docile et utile. Faudrait être monsieur tout le monde, et en même temps être unique. Combien de temps encore faudra-t-il agir comme ils aiment? Combien de bruit encore avant la couffaine? Un jour tu diras stop, t'inverseras les règles, tu claqueras cette porte pour en ouvrir une nouvelle. Un jour tu diras stop, t'inverseras les règles, tu claqueras cette porte pour en ouvrir une nouvelle. Un jour tu diras stop, t'inverseras les règles, tu claqueras cette porte pour en ouvrir une nouvelle. Puisqu'on n'a qu'une seule vie, faudra être vivant, se laisser dévier, prendre chaque courant.
Plus jamais au bureau.
Notre thème du jour, la rentrée des classes. Pour cela, nous recevons Johan, professeur d'histoire-géographie, au téléphone. Alors, nous allons voir avec Sylvie si nous en récupérons le fil de notre émission de ce matin, qui est assez particulière.
Voilà. Sylvie. Donc là, c'était Arcadiane, petit à petit. Donc, petit à petit, on va parler de Parcoursup maintenant.
Oui, Parcoursup, voir un peu ce qu'il en est de la finalité, puisque ça devait normalement se finir courant septembre.
Hein. Le 16 septembre.
Donc, quelles les dernières infos sur Parcoursup? C'est que il y a un total en ce moment de 239 bacheliers contre 591 l'année dernière, qui sont encore sans affectation à l'issue de la finalité de Parcoursup.
On
ne
va pas critiquer, ça s'est un peu amélioré.
Ça s'est amélioré un petit peu.
Bon, il faut faire mieux. Hein.
D'accord. après, il y a donc cette année, la procédure a concerné 931 000 candidats qui ont pu postuler via la plateforme sur 19 500 formations. Donc, c'est quand même quelque chose de pas mal, trouvable. Il y a eu quand même quelque chose de positif au fur et à mesure qui se passe.
Oui.
Alors maintenant, après, ça sera sur les quelques élèves qui restent, ça va être les commissions d'accès à l'enseignement supérieur qui vont pouvoir mettre à profit leur expérience et essayer de trouver des solutions au cas par cas. Donc, 93% des bacheliers ont reçu au moins une proposition d'admission. C'est quand même bon. Au total, 590 000 bacheliers ont reçu au moins une proposition, donc 93%, qui constitue un score supérieur. Bon, après, l'année dernière, c'était 92,5. L'ensemble des bacheliers, quelle que soit la série, concernait Général Technologie Professionnelle, qui ont reçu ces propositions. Mais, comme disait un peu Johan tout à l'heure, par rapport au bac qui est un peu dévalorisé, c'est quand même quelque chose d'intéressant, qui est quand même un grand nombre de bacheliers qui ont eu pas mal de propositions quand même.
Oui.
Donc malgré ce bac qui est soi-disant n'est plus ce qu'il était.
Mais
vas-y, Johan, on t'écoute.
Le problème c'est pas tant l'affectation. Le problème qu'on peut trouver l'affectation, c'est que ça met énormément de temps, que ça stresse énormément les élèves. Le problème c'est la première année de fac.
Oui.
Où généralement le taux de réussite est
très faible,
faramineusement bas. On est, je crois, à 40% de réussite en première année de supérieur, donc 60% d'échec.
Mais moi, je vais te dire, je te coupe 5 minutes, mais on a eu des jeunes qui faisaient partie d'un syndicat MNL, donc syndicat des jeunes, des jeunes étudiants même. Et donc, eux, ce qui leur faisait peur, c'était pas vraiment le bac, mais c'était est-ce que je vais être capable de poursuivre mes études supérieures? Est-ce que j'ai vraiment le niveau? Voilà, c'était vraiment les questions que se posaient les jeunes.
Mais toute l'idée, de toute façon, tous les enseignants doivent avoir ça en tête. Et moi, ce que j'ai en tête quand je parle des élèves, moi, le bac, je ne les prépare pas spécialement au bac. Le bac, ils l'auront. Moi, je les prépare au supérieur. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe après. Parce qu'avoir le bac sans rien d'autre derrière, ça ne mène à rien. C'est ce qui se passe après qui est important, qui est extrêmement important. Et on voit le taux d'échec. Et ce taux d'échec s'explique par. On parlait avec les jeunes, ils ne travaillaient plus. D'ailleurs, vous disiez cela. Enfin, du mal à les mettre au travail. Mais effectivement, on a du mal à les mettre au travail. Mais le problème, c'est que déjà, il y a sans doute au collège, si on parle du collège, de matière, parce que sans doute il y a sans doute un problème de matière et de hiérarchisation des matières. Et puis effectivement le niveau global aujourd'hui, le bac, vraiment le sentiment que les attentes du bac ont réduit, enfin, sont réduites. C'est aussi pour ça qu'on arrive à 95% de réussite, mais du coup,
bien sûr, oui, oui,
les 95% sont des beaux chiffres pour le gouvernement, mais ils mentent à la fois aux enfants, ils mentent aux élèves, ils mentent aux parents, ils mentent à la société.
Mais est-ce qu'on ment...
C'est un mensonge.
Mais là,
c'est un joli mensonge.
Oui, parce qu'en plus, c'est plus en contrôle continu maintenant, plus ou moins.
Mais voilà, ce qu'on parlait tout à l'heure, parce que j'ai vu sur un documentaire, une interview, que malheureusement, ce bac là qu'on voit, ce bac pose une problématique, c'est que malheureusement, on est plus maintenant sur le contrôle continu, et les grandes écoles, eux, délaissent un peu ce diplôme de bac pour avoir vraiment regarder le contrôle continu. Et maintenant, malheureusement, les élèves des quartiers un peu, enfin ce qu'on dit défavorisés, REP plus et autres, maintenant ont plus de facilité. L'accès, le seul accès pour eux, c'est l'université, et les grandes écoles sont un peu bloquées pour eux.
Bien sûr, mais en fait, comment se fait la sélection pour les universités? Ils voient les lycées. Un lycée sensible de centre-ville n'a pas les mêmes chances qu'un lycée UP de centre-ville. Moi, j'ai enseigné dans les deux. Hein, donc, en lycée UP, tous les élèves avaient leur premier vœu. Hein, peu importe, voilà. Et puis, dans l'unité sensible, on a plein d'élèves qui ont pas leur premier vœu parce qu'on se dit, ouais, mais les profs surnotent. Bah, évidemment, vu que c'est un bac à la carte, c'est aussi la porte ouverte aux inégalités. Le bac n'a plus rien de national. Donc, du coup, c'est un bac à la carte. Donc, on va dire, tiens, tel lycée, c'est mal famé, donc on le met derrière. Tel lycée, c'est bien vu. Donc, encore une fois, ça crée des inégalités entre les élèves. Et dans le supérieur, effectivement, des gamins de quartier populaire n'ont plus accès à certaines études sélectives. Parce qu'on prétend, on présuppose qu'ils sont surnotés dans leur établissement.
Alors,
juste un exemple. L'année dernière, nos élèves de physique-chimie, tous les élèves du lycée en terminale, on a baissé leur moyenne de physique-chimie de 1,5. Décision du rectorat qui a baissé d'1,5 toutes les moyennes des élèves en terminale de physique-chimie, parce que visiblement, nos collègues de physique-chimie ont surnoté nos élèves. Voilà, visiblement. Et donc, toutes les classes ont été baissées d'1,5, mais après, il y a aussi une différence entre des classes. Il y a des classes où il y a des gamins qui se débrouillent. Effectivement, parfois il y a des classes à profil où les gamins, il n'est pas rare d'avoir 3 points de moyenne d'écart entre une classe classique et une classe spécifique. 3 points de moyenne d'écart, mais les 3 points sont justifiés, on fait les mêmes évaluations. Sauf qu'on va dire, ah oui, mais attention, c'est pas équilibré, donc on va essayer de rééquilibrer arbitrairement, on va baisser les moyennes de ceux qui ont des meilleures moyennes ou augmenter arbitrairement ceux qui ont des moyennes moins bonnes. Donc c'est un bac qui n'a plus aucun sens.
Alors justement, je voulais en parler vers la fin, mais je vais le dire très rapidement. On se posait la question si l'école devenait de plus en plus inégalitaire. Et selon le rapport du CNESCO sur les inégalités scolaires réalisées en 2016, l'école hérite d'inégalités familiales, mais produit aussi en son sein des inégalités sociales de nature différente qui se cumulent en se renforçant. Inégalité de résultats, d'orientation, de diplôme et de rendement social du diplôme. Donc là, je pense que tout est dit. Pour avancer un petit peu dans l'émission, on va parler un petit peu de la place et le rôle des parents dans les écoles. Alors cette année, beaucoup de changements ont eu lieu. Hein. La scolarité obligatoire à partir de 3 ans, la vaccination avec la mise en place de vaccinodromes près des collèges, puis la loi sur le séparatisme qui va donc rentrer en vigueur en septembre 2022. Alors, concernant la vaccination, le gouvernement donne autorisation aux jeunes de 16 ans d'être vaccinés sans l'accord des parents. Moi, personnellement, ça m'a un petit peu choquée parce que pour moi, la majorité est à 18 ans, donc encore sous l'autorité parentale. Moi, c'était la question que je posais. Est-ce une façon de supplanter les droits, les obligations des parents? Qu'est-ce que vous en pensez?
Franchement, entre 16 ans et 18 ans... Je vais dire quelque chose. les enfants entre 16 et 18 ans, tout ce qu'on leur dit, ils en pensent ce qu'ils veulent. Hein. Donc, si tu leur dis « fais pas ci », ils vont le faire. Donc, et puis bon, ils ont leur intérêt personnel. Hein, ils sont leurs copains, leurs copines. S'ils peuvent pas sortir avec, ils vont se dire « pourquoi papa, maman m'interdisent de faire ça ?»
Oui, non, donc, c'est pas là-dessus. Moi, c'est vraiment ce qui m'embête, c'est parce qu'ils ont 16 ans et en quelque sorte, on leur donne le droit
d'avoir une autonomie dans la vaccination.
Non, et puis qu'on enlève l'autorité parentale, si tu veux. Parce que, en fin de compte, la fin de l'autorité parentale est donnée dans des cas quand l'enfant est majeur et par émancipation de l'enfant ou quand les parents se font retirer les droits, tout simplement, parce qu'il y a eu maltraitance.
Oui, mais moi, je voulais finir avec une petite conclusion. Si on en arrive là, c'est parce qu'il y a de moins en moins de dialogue entre les enfants et les parents, tout simplement.
Oui, mais...
Je voudrais savoir combien d'enfants qui ont 16 ans et qui voudraient se faire vacciner sont à même d'en parler à leurs parents.
Oui, non, mais non, mais moi, c'est la loi qui m'embête. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, ce qui m'embête, c'est vraiment qu'on prenne comme ça...
comme une obligation.
Comme une obligation. L'émancipation d'un mineur, c'est vraiment, je veux dire, c'est, il faut que ça passe devant un tribunal.
Je crois que, comme on disait Gérard, ce qu'il faut avant tout, c'est un lien et puis un échange entre l'ado et puis les parents. C'est surtout ça. C'est vrai que, là, ils ont 16, 18 ans, ils ont déjà un âge théoriquement où ils peuvent penser, réfléchir. Enfin, ils sont capables de tout cela, notamment au lycée, hein, puisqu'on leur demande ça au lycée de travailler sur la réflexion, l'autonomie et tout cela. Et donc, sur les sujets, de vaccination et autres, ils doivent être capables aussi d'avoir une réflexion et de pouvoir en discuter avec leurs parents.
Ah oui, tout à fait.
Moi, je crois que ça serait l'idéal. Après, de mettre une obligation, ça, c'est pas. Enfin, moi, l'obligation pour tous, c'est pas une bonne chose pour moi.
Voilà, moi, c'est ça qui m'embêtait.
Quand on met de l'obligation, pour moi, c'est pas une bonne chose. On doit inciter les gens. Inciter, oui. On doit faire de la pédagogie, inciter les gens, montrer tout ce qui se passe avec. Enfin, tout ce qu'on peut leur informer. Mais mettre une obligation d'office, ça, c'est, pour moi, c'est toujours contre-productif.
Ce qui m'embête vraiment, c'est on a l'impression que petit à petit, l'autorité des parents est un peu bafouée, hein, parce qu'on a des droits, on a des obligations qui se traduisent de différentes manières, veiller sur l'enfant, sa santé, son éducation, son patrimoine. Et donc, ça peut être un parent ou deux parents, ça dépend s'il y a les divorces, etc. Et là, je pense que 16 ans, moi, j'ai été étonnée qu'on dise, voilà, l'enfant fait un peu ce qu'il veut, voilà. Et donc, moi, c'est vraiment cette émancipation du mineur. Si on demande une émancipation du mineur parce que l'enfant veut vivre sa vie, etc., mais qui veut voler de ses propres ailes, là, ça doit passer devant un jugement demandé par les parents, en fin de compte. Et elle peut être, l'émancipation de l'enfant peut être demandée ensemble par les deux parents, et on doit passer devant un juge des tutelles des mineurs du tribunal. Donc, c'est ça qui m'étonne, en fin de compte, parce qu'on se rend compte que l'État, petit à petit, alors je me trompe, c'est comme la loi sur le séparatisme. Avant, nous, on avait le droit, on pouvait, quand on était plus jeune, mettre nos enfants dans des écoles religieuses, dans des écoles alternatives, ou faire carrément les cours à la maison. Et là encore, on remet une loi sur le séparatisme, et donc ça va être plus compliqué pour les parents. Donc, je me dis... Est-ce que l'État outrepasse ses droits? Alors, c'est peut-être une erreur de ma part. Hein.
Moi, je vais aller dans le sens inverse. Moi, je pense que dans les deux cas, soit la vaccination ou les séparatismes, ça, ce que fait l'État, pour le coup, c'est une bonne chose. Ça va dans le bon sens, à mon avis. Je m'explique, par rapport à la vaccination, à 16 ans, un gamin est tout à fait en droit de réfléchir par lui-même.
Je suis d'accord tout à fait. Mais tu vois pas, mettons, les parents ne sont pas d'accord. L'enfant, lui, veut se faire vacciner. Oh, bonjour, quand même, dans la famille, les problématiques. Voilà.
Oui, mais j'avais dit, enfin...
Ça leur permet de parler ensemble, au moins. D'en discuter.
Tant pis, si le gamin veut être vacciné, il a tout un tas de raisons...
Oui, bien sûr. Oui, tout à fait.
Et le complotisme, il est partout. Hein.
Oui, bien sûr.
Les anciens, il est absolument partout. On va avoir des théories contre lesquelles on doit se battre sans cesse parce qu'on a énormément, avec les réseaux sociaux, de bêtises qui sont énoncées ça et là. À l'ère de l'information en direct et l'information ultra rapide, on peut le dire, tout est son contraire. Et je pense qu'il y a 50 ans, la question ne serait même pas posée par rapport à la vaccination.
Oui, mais...
ne serait pas posée en tout cas en ces termes. Et par rapport au séparatisme, le gros souci, moi très clairement, hein, je suis personnellement, c'est juste personnel, je suis hostile au privé. Et je suis hostile à l'école à la maison, sauf problème de santé important.
Oui,
j'ai tendance à être assez hostile à ça. Pour une éducation nationale où tout le monde va à l'école publique, au collège, au lycée public. Et bon, je suis vachement à ma paroisse aussi. Et du coup, je trouve que ça va quand même dans le bon sens, le fait de... Parce que même les écoles alternatives, il y a du bon, il y a aussi des choses parfois un petit peu...
Mais ça, ouais. C'est dans toutes les écoles. Hein.
Non, mais à partir du moment où ça
d'accord.
rentre dans le
voilà.
cadre de et que ça respecte les règles, bon, après...
Oui, après...
Oui, mais après, c'est plus un choix des parents, je pense. Tu vois, c'est les parents qui désirent que leur enfant ait telle pédagogie, donc... voilà, c'est ça. Je pense que ça doit être compliqué pour ces parents-là. S'ils veulent que l'enfant fasse une école alternative, ben là, ils se voient un petit peu privés de tout ça, quoi.
Peut-être qu'on a créé aussi...
Mais l'école alternative, c'est aussi quelque part... ce qui m'embête aussi par rapport à la religion. Moi, j'enseigne l'EMC. On enseigne la laïcité. Moi, la religion... et bon, je suis en Alsace... on a effectivement des enseignements religieux. Pour moi, l'enseignement de la religion n'a rien à faire dans le cadre scolaire. Il n'y a vraiment rien à faire. Ça doit être hors de l'école. Ça doit être, si les parents veulent donner une éducation religieuse, ils peuvent le faire à l'extérieur, surtout pas dans l'école.
Oui, mais regarde là, par exemple, moi, il y a un petit truc qui m'a un petit peu embêtée. J'ai vu... Alors, c'est vrai que les écoles religieuses ne vont pas avec la laïcité, etc. Mais là, par contre, l'État a accepté qu'il y ait 6 établissements au total, je ne sais pas si tu as entendu parler ça, 6 établissements catholiques qui reviennent sous contrat de l'État, d'accord ? Moi, je me pose la question, puisque tu parlais de laïcité, l'enseignement catholique et laïcité vont-ils bien ensemble ?
Sans doute pas, mais... l'idée, en fait, là où c'est une erreur, c'est que soit on met tout le monde à la même enseigne, soit on accepte pour tout le monde, soit on refuse pour tout le monde. Moi, je serais d'avis de refuser pour tout le monde. C'est-à-dire que la laïcité et l'éducation religieuse ne vont évidemment pas ensemble. C'est pas possible. C'est-à-dire oui. que c'est pour ça que j'ai du mal avec certains privés où c'est des cours
obligatoires. Si...
Les croix dans les classes, etc. Moi, ça a tendance à m'énerver. C'est-à-dire que j'ai des élèves qui aident de privés. Des grandes croix dans la classe, moi, je leur dis au lycée, moi je veux ni de croix, ni de voile, je veux rien du tout, je veux pas les voir. On peut en parler, on peut évoquer les religions pour le faire religieux, ce qu'on fait en histoire géo, ce qu'on fait en université. Dans aucun cas, on traite la religion.
Là, par exemple, tu vois, j'ai été chercher des informations sur le café pédagogique. Hein, ça date du 24 septembre. Donc, les 6 établissements catholiques sous contrat avec l'État, ça va être 2 collèges marseillais, 3 autres du Mans, 2 Nantes et 2 Roubaix, et un lycée professionnel de Roubaix, qui font maintenant partie de l'éducation prioritaire. Ils y sont entrés grâce à la réforme portée par N et Limas, hein, par le biais des contrats locaux d'accompagnement. Donc, particularité de ces contrats, c'est de s'adresser à des établissements qui ne répondent pas aux critères socio-économiques des REP et REP+. La problématique, alors à un moment donné, j'ai lu... alors, effectivement, la laïcité n'est pas l'absence de religion, mais ce qui permet leur coexistence harmonieuse, disait donc l'enseignement catholique... La problématique, c'est aussi l'enseignement catholique refuse les formations de l'éducation nationale, car on ne vit pas la laïcité de la même façon.
Oui, alors enfin, le gros problème, moi, et moi je le vois même fortement au collège, ça m'énervait, c'est sur la route. Le problème, c'est que sur des enfants, alors au lycée, ils ont déjà un esprit critique. Enfin, j'espère qu'ils ont un esprit critique déjà plus évolué, c'est important de l'avoir. Au collège, la religion... L'éducation religieuse, sur des esprits jeunes, ça peut donner des religions. Enfin, les gamins seront automatiquement percés dans la religion et seront automatiquement religieux. Donc, un gamin à qui on inculque la religion depuis le jeune âge sera probablement religieux. Et c'est pour ça que l'enseignement de la religion en collège, ça n'a pas sa place. Pour moi, c'est de l'endoctrinement.
Oui, mais pourquoi est-ce que c'est pas ces écoles alternatives qui se mettent en place et ben de toutes sortes, est-ce que c'est pas parce qu'il y a vraiment un flou au niveau de l'école publique? Parce que en fin de compte, voilà, on met un contrat sur 6 écoles, mais c'est un peu vraiment enfin, au cas par cas en fin de compte. Donc si on commence à faire du cas par cas, on va pas en finir.
Voilà, c'est ça. Hein.
C'est ça.
Non, c'est une vraie problématique. C'est comme un peu les écoles avec les langues régionales.
Bah, tout le monde s'engouffre dedans puisqu'il n'y a pas de règles, de trucs bien précises. C'est comme dans la laïcité, malheureusement. Théoriquement, il y avait un cadre, un socle, mais enfin, le socle, il a tellement été un peu mis à tous les sauces qu'en fin de compte, maintenant, tout le monde en fait un peu tout ce qu'il veut.
Parce que tout à l'heure, tu disais quelque chose, effectivement, qui était intéressant, mais cette loi du séparatisme, c'est vraiment pour mettre de côté les écoles religieuses. Mais en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire que les parents, à un moment donné, ils ont les enfants qui ne vont pas à l'école. Donc, de toute façon, les parents peuvent promulguer et puis parler d'une religion. Donc, je ne sais pas si cette loi du séparatisme était réellement nécessaire ou pas. S'il y avait vraiment un besoin. C'est pour ça que je me posais la question. Je me disais, petit à petit, les parents, ben voilà, on leur enlève des droits sur l'éducation de leurs enfants. Alors, c'est peut-être moi qui me fais une idée, voilà, mais je voudrais pas quand même, je voudrais quand même que les parents aient leur mot à dire là-dessus, sur l'éducation de leurs enfants.
Après, bien sûr, il faut que les parents aient leur mot à dire. Après, je pense, mon avis, encore une fois, ça se discute.
Tout se discute.
Ça se discute. Je pense vraiment qu'on a aussi besoin d'une éducation nationale forte et avec un socle commun le plus fort possible. Le problème qu'il y a, c'est que, bien sûr, laisser du pouvoir aux parents, c'est nécessaire. Après, peut-être pas en laisser trop non plus, parce que du coup, on perd ce côté éducation nationale.
Non, mais t'as raison, oui, c'est certain.
C'est la problématique qu'on retrouve aussi dans l'éducation nationale en général. Chacun, moi, j'en discutais avec des personnes, des parents cette semaine, enfin, puis des profs aussi, en même temps qu'on a eu cette semaine. Mais chacun reste sur ses bases, des instits. Donc, d'un côté, il y a les profs, l'éducation nationale, la direction, et de l'autre côté, il y a les parents. Mais chacun est dans son coin, mais personne ne veut essayer de travailler ensemble. Donc ça ne pourra pas. On garde, malheureusement, c'est ce qu'on disait aussi cette semaine. C'est que, bon, surtout, nous, on voit surtout dans le primaire, mais après, je ne sais pas, mais dans le primaire, les parents, on veut bien les prendre que pour les gâteaux, les machins, les trucs, mais le restant, on ne veut pas, surtout pas qu'ils essayent de s'insérer sur d'autres activités un peu plus intéressantes. Donc ça, c'est un peu compliqué. Hein. On ne pourra jamais arriver à faire quelque chose si chacun n'essaye pas de travailler ensemble et se mettre à une table comme tout le monde, ça c'est sûr.
Partout pareil.
Hein. C'est partout pareil.
Je sais, nous, avec Énergie Jeune, quand on va dans les collèges, les profs nous demandent ce qu'on fait là. Parce
bien
que,
sûr. Voilà. Donc, chacun est dans son système, dans son clan, et puis personne ne veut que l'autre essaye de venir un petit peu regarder ce qu'il en est, puis travailler ensemble surtout.
Il ne faut pas piétiner les plates-bandes.
Ben, c'est ça.
C'est voilà. Ça. Oui, c'est ça, c'est que chacun est dans son rôle, mais... Voilà, moi, c'était la question que je me posais. Ça m'embêtait un petit peu pour les parents. Et je me dis franchement, heureusement que je n'ai plus d'enfants en bas âge. Voilà, parce qu'à l'époque, moi, je pouvais décider où j'allais les mettre à l'école. Bon, entre nous, j'ai choisi l'école publique. Voilà. Voilà, donc, alors personne n'est d'accord avec moi pour l'émancipation des jeunes. Bon, moi, ça me choquait quand même. Moi, je vous le dis, ouvertement, ça m'a choqué. Voilà. C'est tout, voilà. Mais que les parents aillent quand même.
Il faut un regard tout en laissant une autonomie.
Voilà. Moi, je dis, pas souvent, les parents, on n'est pas au courant de nos droits, de nos devoirs, de nos obligations. Allez voir sur le service public et regardez l'autorité parentale jusqu'où ça va avec l'émancipation des jeunes. Voilà, des enfants. Ceci étant dit...
Ne fâchons pas, Sylvie.
Je n'ai pas eu mon café ce matin, donc ça ne va pas. Donc maintenant, moi j'ai une petite question à poser à tout le monde. Pourquoi le métier d'enseignant n'a plus la cote? Chaque année, on manque de candidats. Je peux vous dire que cette année, il y en a encore d'autres qui vont partir. Voilà, parce que je parle beaucoup avec des professeurs. Voilà. On entend souvent des enseignants qui attendent d'ailleurs leur affectation jusqu'à la dernière minute. Les enseignants les enseignants ont-ils l'impression d'être les mal-aimés de l'éducation nationale ?
Qui commence ?
Qui commence ? Gérard, peut-être ? Tu n'es pas enseignant, tu vas me dire.
Je vais être très clair et très vague. Je pense que à l'heure actuelle, personne n'a plus envie de travailler. Avec ce qui s'est passé avec le Covid, chacun est resté chez soi. Et maintenant, pour reprendre le boulot et se remettre...
Regarde-nous, on est là, on travaille.
Ben oui, mais...
L'associatif.
Et si tu veux, c'est... Je vois ça comme ça, moi. Je pense que le Covid a fait beaucoup de mal. Hein, et que maintenant, histoire de dire qu'il faut se remettre à travailler et puis reprendre ça, ça devient très très difficile.
Ben, je Alors, crois pourquoi que les gens se posent beaucoup de questions
pourquoi
aussi.
Pourquoi ça n'intéresse pas l'éducation nationale ? Bon, franchement, moi qui vais dans les collèges, j'avoue franchement, j'aurais beaucoup de mal à pouvoir encaisser ce que certains encaissent.
C'est vrai.
Mais de toute façon, pour moi, ce n'est pas un métier, c'est une vocation.
Ah oui, oui,
on peut pas, c'est vrai que c'est comme la santé, c'est comme plein d'autres filières. On ne peut pas se me dire du jour au lendemain, je vais faire tel ou tel métier. Nous, on le voit en tant qu'associatif. On travaille avec les écoles. Bon, quand on fait 2 heures avec des élèves,
c'est fatigant.
C'est
hein.
pas mal. Donc, on ne peut pas prendre ça à la légère. Et c'est vrai que le métier d'enseignant, malheureusement, il a perdu son statut qu'il avait auparavant, il y a des années et des années. Avant, ce qu'on disait avec Sylvie,
on
s'est vu hier, on remémorait, nous, notre ancien temps. Mais l'enseignant avait un vrai statut. Il y avait, dans une commune, il y avait le maire, il y avait l'enseignant, il y avait le curé, quoi.
Ouais,
donc,
le maire,
c'était
le curé,
des gens qu'on reconnaissait.
Qu'on appréciait aussi.
Qu'on appréciait. Maintenant...
Qu'on
écoutait aussi, que les parents, que tout le
monde
écoutait. Le
directeur d'école était secrétaire de mairie.
Voilà.
Souvent, oui,
maintenant, il n'y a plus aucun statut. Donc l'enseignant, c'est une personne basique, hein, même dans l'école, c'est pour ça. Et il manque aussi bien au niveau d'une revalorisation aussi, mais surtout un statut qui manque.
C'est ça. Moi, c'est vrai, c'est ce qu'on discutait aussi. On a l'impression qu'il y a une dévalorisation du métier d'enseignant et par l'éducation nationale, mais pas que, aussi par les parents.
Par la société.
Par la société. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Johan ?
Bon, par rapport au métier d'enseignant, effectivement, on est de plus en plus en train de mal traiter, mais on est de plus en plus petit pour de parfaits idiots, pour de perception. Exemple très concret, hein, là je perds une classe en 3 années, on dit des liens avec la classe, on fait de la pédagogie avec la classe, on met en place des choses. Au bout d'un mois, on était à la classe pour des impératifs économiques. Hein. Mon collègue n'avait pas assez d'heures, il avait une décharge, là il lui manquait même 1 heure, moi j'étais prêt à me sacrifier sur mes heures sup. Je m'en fiche, je ne cours pas après les heures sup pour garder la classe, mais même là ça ne suffit pas, il manquerait encore 1 heure et quelques à mon collègue, donc du coup je perds la classe en cours d'année. Donc c'est pour moi du mépris vis-à-vis des enseignants, du mépris vis-à-vis des élèves. Je l'ai signalé à mon rectorat, je l'ai signalé à mon inspectrice. Après voilà, c'est pas... La faute vient sans doute d'en haut, hein. sans doute du rectorat. Mais je trouve ça un peu déplorable en termes de traitement des gens. On prend les gens pour des positions. J'ai eu ma nomination 3 jours avant la rentrée. Bon, ça encore, je suis pas le seul, mais... Je trouve qu'on fait un métier où on perd de plus en plus le sens du métier aussi. Et la foi dans le métier, c'est difficile de la tenir jusqu'au bout. C'est-à-dire que là, moi, ça me l'a un peu ébranlé. C'est-à-dire que je me dis, mais en fait, je serais marchand de tapis, ce serait la même chose. Sauf qu'on fait de l'humain, on fait quelque chose qui a normalement du sens. Et ce sens, on le perd de plus en plus. Donc, je ne rentre pas dans la considération des salaires. Effectivement, c'est un problème, mais ce n'est pas le seul problème, loin de mon faux. Rien de faire de dire, comme Anne Hidalgo, elle va doubler les salaires, c'est moi qui dis voir.
Elle est gentille, hein.
Très gentille, mais c'est illusoire. Et puis, le côté, effectivement, à pouvoir le métier n'attire plus, parce que, de toute façon, on fait comprendre très vite dans le métier que vous êtes un pion qui peut être placé quelque part et mis de côté très rapidement. On vous fait comprendre que, de toute façon, la hiérarchie, vous n'aurez aucune reconnaissance de sa part. Elle se fiche éperdument de ce que vous pouvez penser, de ce que vous pouvez dire. Donc la seule reconnaissance, moi, ce que j'en tire de ce métier, et c'est d'ailleurs pour ça que je le fais, c'est par rapport aux élèves.
Aux élèves, bien sûr.
Mais... Si j'ai pas les élèves et la reconnaissance des élèves et le côté humain du métier, je change de métier tout de suite.
Alors par contre, Je vais juste, parce que ça va se terminer l'émission, il y a eu une grève le 23 septembre, il y en a une autre qui se profile dans le secondaire pour le 5 octobre, et là je vois le 23 septembre, ce qu'ils demandaient c'était plus de moyens pour des créations de postes d'enseignants, de CPE, d'AESH pour aider les enfants qui sont effectivement en ULIS, qui ont des problèmes, des difficultés scolaires, etc. Ils parlaient effectivement des salaires, des directions d'école, hein, donc ça ils étaient complètement contre, on en a parlé tout à l'heure, et pour le baccalauréat, ils demandaient que le contrôle continu arrête et demandaient le rétablissement du baccalauréat national pour la session 2022 avec des épreuves nationales terminales et anonymes. Et donc on voit bien que là les enseignants reprennent la rentrée, mais ils sont ils se mettent déjà en grève. Quand on voit bien qu'il y a une mauvaise entente entre eux et leur direction.
Mais de toute façon, depuis 5 ans, je pense que Blanquer est probablement l'un des pires ministres qu'on ait eu. Si ce n'est le pire, c'est les dernières récentes, et on n'a pas eu du bon. Hein. Mais Blanquer, à part communiquer, on a été nié, on a été maltraité, on a été presque insulté par Blanquer, qui d'ailleurs ne communique pas avec nous, communique davantage dans les médias. On a des informations par les médias. Son bac avec le contrôle continu, en fait, il a détruit le bac. Hein. Le bac était déjà affaibli, il l'a complètement détruit. Il fallait peut-être revenir sur les filières, mais le bac national, effectivement, c'est une demande forte et c'est une demande importante. Après, par rapport aux grèves, je comprends les collègues qui sont grévistes. Moi, je ne le suis que rarement parce que, malheureusement, on n'est pas écouté quoi qu'il arrive. C'est pas parce qu'on va défiler avec quelques lampions et avec des tam-tams qu'on va être écouté. Malheureusement, et puis ça fait aussi des cours en moins, des heures en moins avec les élèves. Donc déjà qu'on a des programmes difficilement tenables, c'est compliqué d'avancer concrètement avec nos élèves.
Oui, mais peut-être que c'est une façon de se faire entendre aussi, parce que sinon c'est compliqué.
Oui, mais le souci c'est que de toute façon, même si on est dehors, on n'entend pas généralement ce qui est relayé par les médias, c'est les profs réclament plus d'argent. Ce qui va être relayé tout le temps, hein, c'est Et donc, généralement, on se fait assassiner après sur les réseaux sociaux en disant « Ah, les profs, les feignants qui ne travaillent que tant d'heures par semaine, avec un peu plus d'argent, moi aussi je peux le faire. » C'est généralement ce qui sort à chaque fois et les médias font tout pour que généralement la société nous tape dessus en disant « Les profs sont des feignants. » Donc de toute façon, ce qui est retenu par les gens, c'est le salaire. Tout le reste, c'est pas retenu, mais il y a effectivement une vraie demande, notamment sur le baccalauréat, c'est une demande forte d'un retour à un bac national avec des épreuves nationales pour tout le monde. C'est un non-sens d'avoir un bac comme il est actuellement. J'espère qu'à l'avenir, on reviendra dessus de manière une réforme par quinquennat et une réforme de l'éducation. On aura de nouveau une réformette. Du coup, c'est une réforme davantage globale. Il y a énormément de choses à revoir, de la maternelle au lycée. Actuellement, ce qu'on fait, c'est simplement on ment à la société, on ment aux parents, on ment aux enfants. Et on a une éducation nationale qui est de moins en moins haut niveau. Et les 400 PISA à venir, même les autres classements, de toute façon, n'amélioreront pas la chose. L'école va dans le mur à l'heure actuelle.
C'est avec ça qu'on terminera parce que l'émission, c'est fini. Par contre, ici, on écoute. Donc, nous, on fait appel aux syndicats, aux professeurs pour nous dire vraiment le fond de leurs pensées. Je laisse la parole à Gérard.
Eh bien, Johan, merci. Notre émission se termine. Cette émission Pédago Rando sera diffusée pendant le mois d'octobre, le vendredi 8 à 19h, le lundi 11 à 16h30, le samedi 23 à 17h et le mercredi 27 à 2h du matin. Le thème du mois prochain sera les relations entre filles et garçons à l'école primaire et au collège. Merci Luc à la technique. Chers auditeurs, si l'éducation des enfants et l'avenir des jeunes vous intéressent, n'hésitez pas à nous rejoindre et venez donner votre opinion à l'antenne. Contactez-nous par courriel sur le site de RVM à www.radio-6valois-6mulcien.fr.
Ils sont marrants cette année, c'est difficile de deviner dès la rentrée. Lequel se fera arrêter pour les scouts qui leur a piqué, lequel sera incarcéré pour avoir trop dit. Et moi en bon prof, je suis préparé. Un peu de maths et de français, du kickboxing, du karaté. Tant pis pour la géographie, ceux qui connaissent de l'Italie, c'est juste vaguement les spaghettis et Rocco Siffredi. Au programme de cette année, en français faudrait arriver à lire tout un livre en entier. Mais même d'un Brand et Marc Lévy, y'a plus de 100 mots de vocabulaire. On sera toujours à lire la préface même après l'hiver. Et mon voisin me voyant me dire...